Bonjour et bienvenue sur les coups de cœur des médiathèques du QRGA. Aujourd'hui, on cause traumatisme, enfance, larmes et désolation. Et si vous vous dites que ça va être triste, vous n'avez encore rien entendu. Parce qu'après s'être joyeusement envolé avec mon voisin Totoro, on va redescendre dans le tombeau des Lucioles d'Isao Takahata. Isao Takahata, fondateur des studios Ghibli avec Miyazaki, réalisateur de Pompoko et du conte de la princesse Kaguya, réalise ici, en 1988, son cinquième film, et certainement son plus connu. Si, lors de son lancement au Japon, le film connaît un grand succès critique, le nombre d'entrées, lui, ne suit pas. Jugé trop sombre et légèrement traumatisant, les parents n'ont pas pris le risque d'emmener les gosses le voir. Ce qui va sauver le studio Ghibli d'une banqueroute certaine, c'est la sortie conjointe de Mon voisin Totoro. Souvent diffusée juste après, ce qui est la meilleure idée qu'il soit, il faut au moins un Totoro pour se sortir du tombeau dans lequel on est tombé. Le film, aujourd'hui culte, s'est principalement bâti son succès par la suite auprès d'un public plus adolescent et adulte, succès qui n'a fait que grandir depuis, au Japon d'abord, puis dans le monde entier. Le tombeau des Lucioles, donc, est une adaptation du roman semi-autobiographique La tombe des Lucioles d'Akiyuki Nozaka. Et dès le titre, on note des choses intéressantes. L'auteur a donné au mot « Luciole » en japonais une graphie originale, particulière, signifiant littéralement « le feu qui tombe par gouttes ». Référence directe aux bombes américaines qui détruisent le village de Kobe au début de l'histoire. Mais je vais trop vite. Le film commence par la fin et par la phrase. 21 septembre 1945, c'est la nuit de ma mort. Prononcée par le fantôme du protagoniste principal, Saita, ado de 14 ans. Rejoint rapidement par Setsuko, le fantôme de sa sœur de 4 ans, morte de malnutrition, elle aussi un mois auparavant. Ça commence très fort. Allez, je vous propose de sombrer dans un petit récap de l'histoire. Saita est un ado de 14 ans et sa sœur Setsuko en a 4. Un père officier de la marine impériale japonaise, donc absent tout le film, probablement mort lui aussi, ils vivent donc avec leur mère dans la ville de Kobe, lorsque les forces armées américaines mènent une attaque à la bombe incendiaire sur cette ville portuaire. La famille est obligée de fuir. Saita et Setsuko, séparés de leur mère, fuient vers la plage. Et leur mère, restée prisonnière des flammes, finira gravement brûlée et succombera à ses blessures. Les deux gamins se retrouvent livrés à eux-mêmes dans un monde hostile. Alors la tentative de survie va commencer. Je vous passe les détails, mais ils retrouveront une tente pas très agréable, finiront par essayer de vivre tout seuls, vivement de vol et d'espoir sous forme de lucioles, d'espoirs qui seront tous détruits minutieusement par la vie. Car, oui, le film est une succession de chutes de plus en plus graves, de pépins, de problèmes. Et si le réalisateur fait systématiquement renaître ses espoirs, par quelques instants de tendresse, de bonheur, c'est pour mieux faire ressortir le malheur, le vrai, avec un grand M, comme les mouchoirs, indispensables pour réussir à regarder ce film. Mais je m'égare. Tout cela finira par là où ça a commencé, par la mort, celle de Saita, seule dans un sous-sol, comme déjà enterrée sous l'absence de considération des passants. Le sujet du film est plus l'orgueil et ses pièges que la guerre et la survie. Car le personnage de Saita est orgueilleux et égoïste. Il pense pouvoir s'en sortir sans aide, et surtout sans aider les autres. Voler est plus facile que travailler, et cet orgueil conduit inexorablement à la mort de sa sœur, qui, en passant, le remercie juste avant de trépasser, rajoutant un coup de pelle dans l'exuput des dernières lueurs de joie qu'il aurait pu vous rester. Mourir en disant merci à son frère, qui a refusé de la voir tomber malade, qui n'a même pas pensé à la ramener en sécurité chez leur tante, assurément pas très sympa, mais qui les aurait au moins maintenus en vie. Alors certes, on ne peut pas demander à un ado traumatisé d'assumer la choix d'adulte et de prendre les bonnes décisions. D'ailleurs, Takahata ne le présente jamais comme un exemple de bravoure ou de courage et de pureté, comme souvent cité dans les critiques du film. Il pose un regard froid sur cette insouciance fière et suffisante qui ne peut être que fatale quand on veut vivre en autonomie avec une enfant à charge à 14 ans et en zone de guerre. Ce film, c'est une tentative d'évasion de la réalité qui ne veut pas d'eux. Les gamins auraient dû mourir dans les bombardements et leur présence devient gênante, voire indécente aux yeux des autres, car ils n'ont aucun rôle à jouer dans la reconstruction d'un pays qui les a abandonnés. Alors on fuit cette réalité dans les moments où l'enfance, à travers un lâcher de luciole, illumine la nuit avant de s'éteindre en silence. C'est beau, hein ? À ce moment-là, vous ne voyez déjà plus l'écran à cause des larmes. Je n'aime pas ce film. Je l'ai vu probablement trop tôt et cela ne m'a pas laissé le souvenir impérissable désiré. Impérissable, certes, désiré, non. Le film tire sur la corde sensible, ou plutôt joue du violon dessus avec une scie égoïne, rouillée. Il réveille les espoirs pour mieux t'en priver et pisser dessus en te regardant dans les yeux. Alors, oui, ça fait pleurer, mais pas pour les bonnes raisons. Passer un certain seuil, c'est plus de la tristesse, c'est de la douleur. Cependant, à ceux qui voudront le regarder, et je vous y invite, c'est une grande œuvre, traumatisante certes, mais importante. À ceux qui voudront le regarder, donc, rappelez-vous que certains voient la fin du film comme étant le moment le plus positif. Que Takahata, en laissant Saita mourir et rejoindre sa sœur, permet ainsi aux enfants de se retrouver dans un monde exempt de faim, de peur, de violence. Ça, c'est le positif du film. C'est vous dire le niveau de morosité ambiante. Mais nous vous rappelons que les enfants comme les Lucioles sont des éclats magiques à la destinée éphémère. C'est beau, hein? À ce moment-là, vous n'entendez plus la musique du film à cause de vos sanglots. Alors oui, je suis un peu de mauvaise foi, il y a de la beauté et de la poésie dans ce film. Une beauté froide, certes, et une poésie mortelle, mais elle existe. Dans la réalisation, le rythme et la musique, le tout s'accorde à la perfection. Le réalisme quasi documentaire des scènes de bombardement, de maladie, contraste parfaitement avec les purs moments de magie des scènes de Luciole ou de fantômes. Ça joue sur les couleurs, celle de la vie et celle de la mort, un contraste toujours très puissant, notamment au début du film, quand la mort observe la vie, ou du moins la fin de vie, quand le fantôme de Seita regarde un enfant qui n'est autre que lui-même mourir dans la dure réalité d'un monde qui n'a pas voulu de lui. Ce mélange de réalisme morbide et de fantasmagorie lugubre, eh ben ça fonctionne. C'est d'une tristesse effroyable, mais ça fonctionne. Ce mariage du côté froid de la guerre avec la poésie des moments de joie et de tendresse font de ce film l'œuvre qu'elle est, c'est-à-dire l'un des films d'animation les plus appréciés au monde. Sur ce, je vous laisse. Le tombeau des Lucioles d'Isao Takahata est à retrouver, bien entendu, sur votre réseau des médiathèques favoris. Bonnes larmes et à bientôt.
Et me reste à dire merci, Victor, pour cette chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques que vous pouvez retrouver en podcast sur le site cfmradio.fr. Il y en a des beaucoup plus joyeuses.